conferències de Radio Languedoc. Per l'estiu de 2007, l'Universitat Occitana d'Estiu de Nîmes consacrait sa réflexion à l'entour de la crise viticole de 1907. Jean Clavel fut convidat pour justement analyser les causes et les conséquences de cette crise viticole. Une conférence qui fut enregistrée pendant le mois de juillet de 2007.
Et donc, le thème de cette dernière conférence sera « Causes et conséquences de 1907 ». Voilà, je lui laisse la parole.
Bien, bonsoir. Je vais essayer de vous présenter très rapidement les causes de la crise de 1907 et puis les conséquences. On a parlé aujourd'hui de toutes ces manifestations qui se sont déroulées, de la personnalité de Marcelin Albert. Je vais plus insister sur ce qui a amené ces manifestations et cette crise viticole dans notre région. Et puis, je voudrais aussi insister sur le déroulement après les événements de 1907, sur les événements viticoles qui se sont succédés tout le long du XXe siècle et qui, bon, si vous le souhaitez, on pourra parler de la situation actuelle. Puisque nous sommes actuellement dans une phase extrêmement délicate, il faut bien le reconnaître, puisqu'il y a de nouvelles règles qui sont en cours de promulgation. Hein. Vous savez, la Commission a proposé aujourd'hui, hier, a proposé une nouvelle orientation qui était en gestation depuis plusieurs années. Et cette nouvelle orientation, elle est fondamentale par rapport à tout ce qui était issu de 1907. On parlera de tout ce qui est sorti de la crise de 1907 du point de vue législatif, du point de vue des organisations professionnelles viticoles, du point de vue de la défense des appellations d'origine en France, des AOC, etc. Il y a eu donc, après 1907, la construction de tout un système dans lequel, d'ailleurs, il y a un personnage qui a marqué, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui a marqué cette évolution à partir de 1905, qui est le sénateur Capu, qui était un Girondin, et qui a été à l'origine de la création de l'INAO, mais qui, à travers de toute cette évolution, et en particulier au lendemain des événements de 1907, a permis de construire le système d'organisation viticole que nous connaissons jusqu'à ce jour et qui est actuellement remis en cause au niveau des propositions de la communauté européenne. Et si vous le souhaitez, on pourra parler de ça puisque ce sont des sujets que je connais bien et que je suis quotidiennement. Donc je vous parlerai des relations qu'il peut y avoir entre l'Organisation mondiale du commerce qui est gérée à Genève et la communauté européenne et en particulier les décisions qui viennent d'être prises. Enfin, elles ne sont pas encore tout à fait prises, puisqu'il faut que le Conseil des ministres maintenant les valide, mais je suis à peu près persuadé que ce qui a été proposé hier sera adopté au niveau européen. Voilà, donc on va parler dans une première partie des causes de ces crises viticoles. Bon, il faut savoir, les causes profondes, c'est, premièrement, c'est la révolution industrielle que connaît la France, bon, à partir de 1840-1850, il y a une véritable révolution industrielle qui fait que il y a une transformation profonde de la société française, avec un exode rural important, une immigration aussi importante de gens qui boivent du vin. Et donc, avec la constitution d'un prolétariat industriel qui a de gros besoins énergétiques, des gros besoins euphorisants à bas prix. C'est ça qui est le fondement du problème. Alors, je sais bien que c'est un peu brutal de parler comme ça, mais enfin, c'est la réalité. Et ça a été écrit d'ailleurs par un personnage qui a été le penseur de la révolution viticole de cette région, de la révolution technique viticole, hein, qui s'appelle Paul Coste-Floré. Il a écrit plusieurs ouvrages, et en particulier, il a décrit quelle devait être la production viticole de cette région pour répondre aux besoins de cette nouvelle société, cette société urbaine et cette société laborieuse qui travaillait dans des conditions effroyables de pénibilité. Vous savez, ce sont les mines de fer, ce sont les mines de charbon, c'est la sidérurgie, c'est la construction des chemins de fer, et ça se fait avec de la force musculaire. Et donc, il y a des besoins de produits énergétiques et euphorisants. Et ça, c'est donc la production viticole de notre région qui va le fournir en abondance. À partir du moment où le chemin de fer va permettre l'abaissement important des coûts de transport, qui ont été utilisés à partir du moment où la ligne de chemin de fer entre Montpellier et Paris, ou entre Nîmes et Paris, a été construite, le coût de transport a été abaissé a été divisé par 10. Et donc, dans ces conditions, évidemment, une production de masse importante et une production, disons, à bas coût, répondait à des besoins de marché qui sont des besoins de marché importants. Donc ça, c'est les années 1850-1860. Il y a là un marché en développement et une production régionale qui se développe pour répondre à ce marché. Avec, évidemment, par exemple, la construction d'une industrie des wagons. À Béziers, il y a une véritable industrie des wagons, ce qu'on a appelé les wagons foudre, pour transporter le vin. C'était des rames techniques de wagons foudre qui permettaient d'apporter le vin dans les places de consommation, et en particulier le centre français de distribution de vin qui était Bercy. C'était Bercy qui était alimenté à la fois par le Roi Ferré, mais également par la Seine. Hein. Et donc là, il y a un marché nouveau et puis une réponse à ce marché avec donc un développement de la production de vin dans cette région. Il y a quelques incidents qui sont un peu prémonitoires. D'abord, c'est la crise de l'oïdium. Il y a on découvre qu'il y a une maladie importée d'Amérique du Nord, qui est un champignon, qui attaque les vignes. Et en 1858, il y a donc une attaque généralisée d'oïdium sur toute la France, et de 45 millions d'hectos, on est tombé à 10 millions d'hectos en un an. Mais on a découvert très rapidement, et ça c'est grâce à un professeur de l'école d'agronomie de Montpellier, qui est en même temps vigneron à côté de Montpellier, qui s'appelle Henri Marès, qui découvre que l'usage du soufre permet de lutter contre l'oïdium. Et en quelques années, 2-3 ans, on a une production de soufre suffisante pour l'ensemble de la viticulture française, et on peut traiter, et donc cet incident dû à cette maladie est éradiqué. Mais ça a une conséquence. Ça a une conséquence parce que parmi les moyens de lutte que l'on a essayé pour éradiquer l'oïdium, on avait trouvé certains vignerons du sud, mais également de la Gironde, mais également de la vallée de la Loire, ils avaient trouvé que des hybrides américains qui étaient utilisés aux États-Unis, sur la côte est des États-Unis, étaient moins sensibles à l'oïdium. En particulier, c'était un cépage un hybride, hein, c'est-à-dire qu'on avait marié à la fois les vignes américaines et une vigne française, et on avait sorti un hybride qui s'appelle l'Isabelle, et qui résistait parfaitement à l'oïdium. Et donc, on a fait venir des plants, il y a plusieurs viticulteurs de France qui ont fait venir ces plants des États-Unis. Et ils ont emporté avec eux, malheureusement, le phylloxéra. Voilà, c'est à cause de l'oïdium, c'est une cause indirecte et lointaine, à cause de l'oïdium, on a importé des plants qui portaient eux-mêmes le phylloxéra. Bon, vous connaissez le système du phylloxéra, il se fixe sur les racines de la vigne. Et il a trouvé dans le vignoble français et européen un champ de développement tout à fait extraordinaire. Ça a été une explosion du développement du phylloxéra. Alors que sur les racines américaines, il ne prospérait pas et il se maintenait dans un équilibre entre la plante et l'insecte. Il y avait un équilibre, un statu quo, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc pour les vignes européennes, en particulier françaises. Donc ce phylloxéra s'est développé à partir de trois points. Il y en a un qui est situé ici dans le Gard, puisque c'est Pujot en Ramon, et puis de l'autre côté du Rhône, c'est Saint-Rémy de Provence. C'est là où les premiers foyers ont été découverts, en 1866. Et puis il y a eu un autre foyer qui a été dans la Gironde, et un troisième foyer qui a été dans la vallée de Valois. Voilà, les trois foyers se sont manifestés, 1866. On ne connaît absolument pas cet insecte, et c'est Planchon, alors je vais un peu vite, hein, parce que je ne veux pas... c'est le professeur Planchon, donc, qui était professeur à l'agro de Montpellier, qui a découvert le puceron à Pujot, qui l'a nommé, puisque c'est lui qui l'a nommé, et donc qui l'a nommé, et qui a été chargé par la suite, par le conseil général de l'Hérault, de découvrir un moyen de lutte contre ce puceron. Évidemment, dans toute la France, puisqu'il y avait aussi des foyers en Gironde qui se sont étendus très rapidement, chaque région a essayé de rechercher des moyens de lutte contre le phylloxéra. Et Bordeaux, par exemple, c'était axé essentiellement sur la chimie. Et donc, avec des injections de gaz, avec un gaz qui détruisait les insectes, enfin, il y avait toute une série de moyens. Et c'est finalement l'école de Montpellier qui a trouvé le seul moyen utilisé maintenant dans le monde, c'est le greffage de vignes françaises ou européennes sur des racines américaines. Donc après de multiples essais, la première vigne qui a été implantée, vigne importante de plus d'un hectare avec un greffage, elle a été à Saporta, parce que le propriétaire de Saporta était le président de la société d'encouragement à l'agriculture du département de l'Hérault, et donc il a proposé une parcelle expérimentale, et donc ça a été la première plantation donc de racinés américains sur lequel on a greffé en place des cépages français. Voilà, donc c'est le phylloxéra qui a été une des causes de la crise que nous avons connue à partir de 1904, 1905, 1906. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le phylloxéra a détruit tout le vignoble français et ça a provoqué une demande importante de vin en France, puisqu'il n'y avait plus de production française, où il y en avait très peu. Mais cette diminution de la production ne s'est pas faite de façon homogène. Le Gard a été un département des premiers touchés. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de moyen de lutte contre le phylloxéra. Par contre, ça a mis 10 ans à arriver à Béziers. Et pendant cette période de 10 ans, eh bien, d'une part, on a découvert les moyens de lutte, mais par ailleurs, on a, dans la région bitéroise, narbonnaise, perpignanaise, dans les Corbières, etc., on a planté beaucoup de vignes pour répondre aux besoins qui s'exprimaient. Donc il y avait des plantations extrêmement importantes, et puis des plantations dans des situations qui étaient extrêmement productives. C'est à ce moment-là qu'on a aménagé, par exemple, la plaine de Coursat, mais on a planté aussi tous les sables du littoral. Vous savez, les plantations des salines du Midi, c'est de cette époque-là, puisque le phylloxéra ne pouvait pas vivre dans le sable, ne peut pas vivre dans le sable. Donc les vignons plantés en direct, c'est-à-dire sans porte-greffe dans les sables, prospéraient. Puis il y avait aussi tous ces vignobles qu'on a plantés dans les bas-fonds que l'on inondait. voyez encore dans certaines vignes, dans certains secteurs, des cheminées avec, donc il y avait des pompes à vapeur qui pompaient l'eau dans des endroits où il y avait suffisamment d'eau. Et puis, on inondait les vignes pendant 40 jours et l'insecte mourait. Donc, partout où il y avait ces possibilités-là, on a, dans la région bitéroise, dans le Picénois, dans le Narbonnais, on a fait des plantations de vignes considérables et surtout, on a planté des vignes extrêmement productives. Puisque l'Aramon, dans les conditions que je vous énonce, c'est-à-dire terre très fertile, avec un système d'irrigation, un système de submersion et un système d'irrigation, puisque ensuite on irriguait, et il y avait donc autour de ces parcelles de la plaine de Coursa que je connais bien, il y avait un double réseau de canaux, les uns pour submerger et les autres pour arroser. Et donc on a fait des productions qui étaient absolument considérables, puisque on arrivait facilement avec de l'amont à faire 300 hectolitres à l'hectare. Donc d'un côté un développement fantastique de la production, mais d'autres régions qui elles n'avaient plus de possibilité de produire. Donc un déséquilibre quand même, une inégalité devant ces problèmes-là. Et donc dans les zones où le phylloxéra est arrivé beaucoup plus tard, il y avait eu une accumulation de moyens financiers qui ont permis, dès que le phylloxéra arrivait, de replanter avec la vigne américaine et le greffage. Et on a fait venir dans le Biterrois, par exemple, des greffeurs de la région de Valence, parce que c'est un métier nouveau qu'on a découvert au travers du phylloxéra. Le greffage, c'est quelque chose de délicat, de difficile. Il faut connaître un certain nombre de paramètres pour arriver à greffer en place sur des bois américains, des vignes françaises. C'est pas simple. Donc on a fait venir des greffeurs de la région de Valencia ou de Murcie, des gens qui avaient l'habitude de ce genre de travaux. Et donc, très rapidement, la région bitéroise et tout ce qui était à l'ouest ont pu replanter très rapidement leurs vignobles, ce qui n'était pas le cas dans les régions où, malheureusement, la vigne avait disparu et on n'avait pas les moyens de reconstituer, ni les moyens financiers, ni les moyens techniques. Donc, il y a un déséquilibre au niveau régional qui s'est passé et qui est un peu caché. C'est pas quelque chose que l'on raconte facilement. Hein. Je vous en parle librement parce que mon grand-père était vigneron à Magalas, à côté de Béziers, dans une zone assez fertile. Bon, il a été mutin, il était au 17e de Béziers. Il n'est pas parti à Gapsa parce que bon, il a eu des problèmes familiaux, que son père est mort après l'année. L'année précédente, en 1906, donc, comme la mère était seule sur l'exploitation, donc on ne l'a pas envoyé à Gapsa. Et puis, ce n'était pas un meneur, hein, c'était pas, s'il avait été un meneur, je pense qu'il serait parti, mais ce n'était pas un meneur, donc il est resté. Et il s'est marié en 1908, et son voyage de noces, ils l'ont fait à Venise. Et c'était une exploitation familiale. Il n'y avait pas d'employés, il n'y avait pas de salariés. C'était une exploitation de polyculture, enfin principalement de viticulture, mais il y avait aussi beaucoup d'autres choses. Il y avait de la châtaigne, puisqu'ils avaient des châtaigneries du côté de Médarieux. Et donc, des gens, des travailleurs, eh bien, je comprends, en 1908, si ça avait été des vignerons ici dans le Gard, je pense qu'ils n'auraient pas pensé à aller faire le voyage de noces à Venise. Voilà, donc il y a eu une différence quand même de traitement et de chance entre la région gardoise, au point de vue du phylloxéra, et la région bitéroise. Donc le phylloxéra a amené aussi un autre problème, c'est que le négoce avait une forte demande de vin et souhaitait apporter une réponse à cette demande. Et en particulier, le négoce, c'est toi. Donc, le négoce cette fois, premièrement, a commencé à importer des vins de tout le bassin méditerranéen. Puis ensuite, ils ont importé des raisins secs. C'était des dizaines de milliers de tonnes, même, on dit des centaines de milliers de tonnes, de raisins secs de tout le bassin méditerranéen. Et puis, on avait du sucre. Et avec du sucre des raisins secs, eh bien, on a fabriqué du vin. Et donc, là, il y a eu une production industrielle de vin importante qui s'est ajoutée donc, à celle qui était produite habituellement. Puis, il y a eu un troisième fait. C'est que 1840, c'est le développement, le premier développement de la viticulture en Algérie. Et au moment où le phylloxéra se déclare, 1870, on dit qu'il faut développer la viticulture algérienne, puisque la viticulture française est condamnée, elle est fichue. Donc le gouvernement a aidé à un développement très important de la viticulture algérienne, de telle sorte que, à la fois, le négoce sétois s'est dirigé vers l'approvisionnement algérien, hein, mais il n'y a pas eu que ça. C'est tout un contexte. De fraude qui s'est développée, une philosophie de la fraude. Alors, les viticulteurs ne sont pas tous exempts. Moi, je connais des grandes caves de gros propriétaires fonciers qui avaient mis en place un système de production de 3 cuvées. C'est-à-dire qu'on faisait une première cuvée. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le système. On enlevait le jus de raisin, on ajoutait de l'eau et du sucre. Deuxième cuvée. On ressortait le vin qui était fait. Troisième cuvée. Il y avait aussi parmi les producteurs eux-mêmes une fraude. Mais ce n'était pas encore le tout. Au niveau parisien, par exemple, les bistrotiers qui débitaient du vin, les cavistes qui débitaient du vin, ils avaient une espèce de protocole d'agrément avec le fisc. On leur acceptait que lorsqu'ils achetaient une barrique de vin naturel, ils pouvaient en vendre deux. Chacun donc pouvait. Alors il y avait toutes sortes de combines, de mécaniques pour y arriver. C'est-à-dire que, par exemple, on utilisait beaucoup l'alcool de betterave. Hein? Bon, c'est-à-dire qu'on faisait une barrique, on en faisait deux. On ajoutait, on faisait le plein d'eau. Et puis, il y avait aussi quelques colorants, en particulier la fuchine, qui était utilisée. Et donc, on mettait de l'alcool pour remonter le degré. C'était des graines de comptoir, des graines à 10 degrés, 9 degrés, 10 degrés, donc on remontait le degré jusqu'à 9 à 10 degrés, et puis on vendait ça. Donc, cette fraude, cette technique de fraude, issue de la crise du phylloxéra, c'était généralisé partout. Quand j'entends certains historiens dire que la fraude n'est pas une des conséquences graves de la crise, moi je suis dubitatif, là, je crois que la fraude y était, mais elle était généralisée. Elle était même au niveau des producteurs. Voilà. Donc, généralisation de cette fraude, et puis ce qui devait arriver, c'est que en 1906, on a commencé à se faire souffrir, c'est-à-dire à ne pas pouvoir vendre le vin de la récolte précédente, de 1905, puis on a été obligé de vider les cuves parce qu'on ne pouvait pas rentrer la récolte suivante, etc. Donc, cette situation s'est généralisé dans toute la région et donc il a fallu essayer de trouver des solutions. Les premiers qui ont bougé, ce ne sont pas des gens, ce sont des gens de Baïchas, dans les Pyrénées-Orientales. C'est eux qui, les premiers, ont décidé la fermeture des services municipaux et la grève de l'impôt. Ils ont été suivis ensuite par ceux d'Argeliès, et là, la création du comité d'Argeliès, et puis tout ce que vous savez du déroulement de ces choses-là. Bon, je là, si vous voulez, si vous avez des questions à poser tout à l'heure sur cette période qui a amené cette situation indescriptible, je voudrais vous parler de ce qui a suivi, hein, puisque 1905, on vous a dit tout à l'heure, Rémi vous a dit, une loi fondamentale qui était une loi préfigurant l'organisation sur la protection des appellations d'origine, mais également préfigurant ce que ce devrait être la répression des fraudes. Dire ça ici. Aucun effet, parce que le gouvernement n'avait donné aucun moyen. C'est-à-dire qu'on a fait une loi, mais il n'y avait aucun moyen au bout, donc elle a été absolument inefficace. Et ce n'est que donc en juillet 1907 que tout a été réorganisé, puisque en septembre, il y avait déjà des circulaires d'application dans les communes, dans les mairies. Donc ça a été très rapide. Et là, on a mis en place un système qui perdure encore aujourd'hui. Déclaration de récolte, déclaration de stock, déclaration de plantation et état de l'exploitation. C'est-à-dire que dans toutes ces déclarations est mise en place d'un service du ministère des Finances qu'on a appelé les indirects et qui ont été dans chacune des communes viticoles. Dans chacune des communes viticoles, il y avait un service des indirects qui contrôlait à la fois donc les déclarations de récolte, les déclarations de stock, les déclarations de plantation, mais également tout ce qui concernait la circulation des vins et également la circulation des sucres. Puisqu'à ce moment-là, il y a eu aussi une augmentation des taxes sur le sucre et on n'a pas pu acheter plus de, je crois que c'était 200 kilos hein, par exploitation, librement 200 kilos de sucre sur l'exploitation, et puis au-delà de 200 kilos, il fallait des documents d'accompagnement, des déclarations, etc. Donc, il y a eu toute une série de règles qui ont été mises en place dès le lendemain de 1907, ça n'a pas été si facile que ça, parce que les mêmes événements que nous avions connus ici à Languedoc se sont produits en 1911 en Champagne. En Champagne, ça a été exactement la même chose, il a fallu envoyer l'armée, tous les viticulteurs. Alors, c'était en réalité, en Champagne, la guerre de deux clans. Il y avait les Aubois d'un côté et les Marnais de l'autre. Et donc, on avait donné l'autorisation d'utiliser le terme champagne aux gens de la Haute-Marne et on avait enlevé cette possibilité aux gens de l'Aube. Et donc, il y a eu une crise terrible à ce moment-là et ça a été une véritable révolution, comme dans le Sud, la même chose. Et donc, il a fallu revoir ces règles d'attribution des appellations. Survient la guerre de 14. Qui provoque une demande de vin très importante, puisqu'à ce moment-là, on a aussi alimenté l'armée. Hein, et donc, il y a eu. La fin de la crise, ça a été la guerre de 14. Alimentation de l'armée avec une forte demande de vin pour alimenter les troupes. Donc, ça, c'est un peu la. Et on ne parle plus de réglementation à ce moment-là. Ce n'est qu'en 1919, un an après la fin de la guerre, que Joseph Capu, qui a conduit toutes ces mises en musique des réglementations, obtient du Parlement une décision d'organisation des appellations d'origine. Donc la loi fondamentale des appellations d'origine, c'est 1919. Et puis, Joseph Capu continue cette croisade pour construire un système cohérent de production de vin en France, et il obtient en 1936 un décret-loi qui crée le Comité national des appellations d'origine avec une fonction juridique très, très particulière qu'on est en train de supprimer actuellement, là aussi, ça fait partie du débat que nous avons. Le ministère, le pouvoir politique avait peu d'influence par la loi sur le fonctionnement du Comité national des appellations d'origine, qui est devenu l'INAO. Il y avait une fonction collective, c'était tous les présidents de syndicats au niveau national qui participaient à cette fonction, et le ministre de l'Agriculture avait peu de moyens de s'opposer aux décisions qui étaient prises par le Comité national des appellations d'origine. Bien, donc ça c'est la construction tout le long de l'histoire d'un système que tout le monde nous enviait. Le système des appellations en France est un système complexe, qui était véritablement, d'abord qui a servi d'exemple à la construction de beaucoup de systèmes européens, et également qui a eu une influence sur le plan international. Malheureusement, actuellement, on est en train de remettre en cause tout ce système-là qui avait été mis en place, parce que la dominante actuellement, c'est le libéralisme du commerce, c'est la mondialisation. C'est le libéralisme qui est affiché, fait que on supprime toutes les barrières qui permettaient l'organisation de cette production. Et en particulier, la décision qui a été prise à Bruxelles, qui supprime avec un délai, c'est 2012, les droits de plantation et les déclarations de plantation, qui libéralisent totalement la viticulture européenne, c'est-à-dire qu'on plantera de la vigne comme on veut, partout où on veut. Voilà, ça c'est clair. Et donc ça c'est quelque chose de fondamental. Alors qu'il y avait une série de réglementations qui étaient parfois très lourdes et trop lourdes peut-être au niveau mondial. Mais actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on libéralise à fond le système. Ça a aussi des conséquences au niveau national, puisque l'INAO est en train d'être réformé. C'est la politique, c'est la politique de la réforme actuellement. Et donc l'INAO a perdu le pouvoir qu'elle avait de gérer la viticulture nationale au travers des appellations et des syndicats. Les syndicats vont disparaître, ils seront remplacés par une structure administrative. Et donc là, pour moi, c'est une régression. Je pense que c'est une régression. Il y avait certainement des choses à faire évoluer pour s'adapter au marché mondial, puisque le problème maintenant n'est plus un problème français, c'est un problème mondial. Donc c'est véritablement le marché mondial qu'il nous faut conquérir. Mais je ne sais pas si les solutions qui sont préconisées sont les bonnes. Bon, j'ai un tour très rapide, alors je suis prêt à débattre. Hein. Je n'ai pas parlé de la coopération. Bon, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait essayer de développer. La coopération, vous savez qu'il y a eu deux phases dans la coopération viticole. Il y a eu une première phase qui a été associée au développement des coopératives de consommation, et en particulier dans le Gard, puisque c'est le Gard qui a servi de base au développement de ces systèmes-là. Mais le gros problème qu'il y a eu à ce moment-là, c'est que ces coopératives étaient des structures qui n'avaient pas de bâtiments, qui n'avaient pas de moyens techniques pour gérer les vins. Et donc, les coopératives de consommateurs se sont très rapidement rendues compte que remplir un wagon fou de vin avec le vin provenant de 10 ou 20 exploitations individuelles dispersées, dont l'état sanitaire n'était peut-être pas homogène. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les coopératives de consommation ont rapidement pris conscience que cette solution-là était invivable. Donc, il y avait une vingtaine de coopératives qui avaient été réalisées dans cet esprit-là, particulièrement dans le Gard, et qui ont été très rapidement dissoutes, n'ont pas pu continuer. Ce n'est qu'à partir du moment où on a permis aux vignerons isolés d'amener leur production dans un ensemble techniquement adapté, dans lequel on pouvait surveiller les vins, les élaborer d'une certaine façon, etc. Et dans le Gard, il y a eu un certain nombre de coopératives qui ont été vraiment en pointe dans ce domaine-là. C'était le Gard et la frontière du Gard. Hein. En particulier, une des coopératives les plus marquantes, ça a été Marcias. Marcias, qui au début du siècle, avait sa centrale de production électrique qui alimentait tout le village. Hein, donc c'était quelque chose d'assez extraordinaire, hein, avec des moyens techniques qui permettaient de rassembler les productions qui auparavant n'arrivaient pas à tenir le choc. Par exemple, elles ne pouvaient pas être conservées, ces productions de viticulture individuelle, elles ne pouvaient pas être conservées au-delà de l'été, avec la chaleur qu'il y avait dans les caves, etc. Donc, et il fallait aménager ces caves coopératives de façon à pouvoir rassembler ces vins et fournir le marché avec des produits qui étaient convenables du point de vue de la qualité. Donc là, il y a eu un développement considérable des caves coopératives, principalement entre 1920 et 1940. Et puis ensuite, un redémarrage de la construction après la guerre de 39-45. 1950, il y a à nouveau des constructions de caves coopératives importantes. Mais c'était à l'époque où la consommation française était très importante. Et malheureusement, la consommation française a diminué régulièrement depuis 30 ans. Vous savez, la consommation moyenne était à 150 litres de vin par habitant de plus de 14 ans en 1965, et elle est maintenant de 50 litres. Donc, on est passé de 150 litres à 50 litres. Donc il y a une diminution très importante de la consommation en France et parallèlement, eh bien, il faut réduire le potentiel de production, c'est évident. Et ce qui a été fait, il y a dans la région ici à peu près, on était à 400 000 hectares sur le plan régional en 1960 et nous sommes maintenant à 280 000 hectares sur le plan régional. Et très certainement, on va tomber à 200 000 hectares. Donc, on était à 400 000, on sera tombé à 200 000 hectares en 30 ans. Voilà quelle est l'évolution actuelle. Donc, beaucoup de caves coopératives sont inadaptées à la situation et à la mondialisation actuellement. Donc, il y a des regroupements, il y a des. Mais ce sont des problèmes extrêmement difficiles à gérer et que. On n'avance pas au rythme qu'il faudrait pour s'adapter à cette mondialisation sur laquelle nous sommes, véritablement. Alors moi, je vous en parle aussi parce que nous avons, c'est mon fils qui a pris maintenant la succession de l'exploitation, nous avons une exploitation viticole sur laquelle nous sommes à 80% à l'exportation, et nous avons construit un système donc d'exportation depuis 15 ans, qui nous permet maintenant de commercialiser la totalité de notre production avec toutes les difficultés que nous avons quand même, parce que la mondialisation se fait aussi, le développement de la production en Australie par exemple est considérable, vous savez que ce sont aussi des Français qui ont développé la production, en particulier la production australienne, hein, c'est une société française qui n'a pas une souche en France et qui est le deuxième maintenant distributeur de vin dans le monde. Hein, c'est Pernod Ricard. Ils ont une marque, par exemple, qui s'appelle Jacob's Creek, qui est une marque australienne. Eh bien, c'est actuellement notre premier concurrent sur le marché anglais. Donc, nous avons en face ce système-là de mondialisation, de production de type industriel dans des pays nouveaux, avec des terrains nouveaux. Qui ont des coûts de production inférieurs aux nôtres. Donc là, c'est une bataille qui n'est pas gagnée et que nous espérons quand même préserver au minimum les 200 000 hectares dont je vous parlais tout à l'heure.
À qui venez d'entendre la conférence de Jean Clavel à propos de la crise viticole de 1907. Fuguette registrada al mes de juillet de 2007 pendant l'utent de l'Universitat Occitana d'Estiu de Nimes.